Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On vous amène aux États-Unis. La défaite de Donald Trump aux élections présidentielles oblige le Parti républicain à se redéfinir. Dans ce groupe figurent les chrétiens conservateurs, de plus en plus minoritaires au sein de la société. Ils sont face à trois possibilités. Les trois sont le communautarisme, le pluralisme et l'intégralisme. On va vous expliquer tout ça dans une minute. Trois figures se distinguent, David French, Sohrab Ahmari et Rod Dreher. Le point de vue avec mon chroniqueur Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Il a signé un texte pour Le Verbe à ce sujet sur le site le-verbe.com. Un texte qui ramasse bien la situation, les problèmes auxquels font face donc ces conservateurs chrétiens aux États-Unis. Benjamin, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe, vous allez bien?
Mal, et vous?
Ah, ça va pas mal.
Parfait. Alors, on peut commencer du bon pied. Oui, donc le Parti républicain est en pleine, pour le dire gentiment, en pleine réflexion.
Oui, des médias américains un peu plus durs parlent de guerre civile. Effectivement, depuis la défaite de Donald Trump, le Parti républicain est profondément divisé entre ceux qui souhaitent continuer dans une direction similaire et ceux qui souhaitent faire le statu quo antebellum et puis retourner à ce qui se faisait avant.
Traduction, statu quo antebellum, c'est la situation avant la guerre.
C'est exact.
Pour ceux qui veulent apprendre le latin. Donc voilà. Merci Benjamin. On continue.
Donc c'est ça. Dans ce contexte-là, il y a une partie de l'électorat républicain là, que vous l'avez bien mentionné qui est l'électorat chrétien conservateur. Une bonne partie de ces gens-là sont des protestants évangéliques, mais de plus en plus de catholiques font partie du groupe des chrétiens conservateurs aux États-Unis. Ah bon? Et puis, il y a différentes orientations que peuvent prendre les membres de ce groupe-là à l'intérieur du parti ou du mouvement conservateur, selon qu'ils sont plus ou moins intéressés à continuer à travailler dans la direction du libéralisme ou plutôt à se retirer.
D'accord. Quand on parle des catholiques ou des protestants, c'est surtout des blancs ou il y a des latinos? Est-ce qu'il y a beaucoup d'évangéliques et de catholiques chez les latinos?
Il y a énormément d'évangéliques et de catholiques chez les latinos, en effet. Mais bon, en général, peut-être que c'est une erreur de le faire, mais en général, lorsque les médias américains parlent de ce groupe-là, on parle du protestantisme évangélique essentiellement blanc dans le sud des États-Unis, et puis d'une partie des chrétiens conservateurs nouvellement catholiques, là, de plus en plus de catholiques blancs font partie de ce mouvement-là, alors que dans le passé, les catholiques qui étaient issus de l'immigration étaient généralement des électeurs démocrates.
D'accord. Et du côté noir, est-ce qu'il y a, ils sont concernés par le conservatisme? J'imagine que moralement, oui, non?
Il y a une minorité de conservateurs dans la communauté afro-américaine, mais pour des raisons qui sont essentiellement politiques, liées à la manière dont la lutte pour les droits civils se sont faits. La plupart des afro-américains qui sont disproportionnellement chrétiens et pratiquants, se retrouvent malgré tout du côté démocrate. Ils sont parfois certains des électeurs ou des élus les plus conservateurs du parti, mais s'y retrouvent malgré tout.
Effectivement. Donc, on a un pays aux États-Unis qui est en bouleversement, enfin en transformation, en profondeur au point de vue social, économique, politique et religieux, non?
Oui, tout à fait. L'un des déterminants de cette transformation-là, c'est les importants flux démographiques qui transforment le visage de la société américaine. Mm-hmm. De plus en plus d'immigration issus de l'Amérique du Sud, mais également issus de partout dans le monde, qui changent le visage ethnographique et puis religieux. Puis l'une des raisons pour lesquelles c'est particulièrement accentué actuellement, là, les luttes autour de cette question-là, c'est que malgré tout, dans la majorité blanche, anglo-saxonne et protestante, il y a une beaucoup plus faible natalité que dans le reste de la population américaine, ce qui, chez certains d'entre eux, suscite une certaine angoisse existentielle, manifestement.
Mm-hmm. Effectivement. On ne parlera donc pas des chrétiens progressistes ou des chrétiens... parce qu'il y en a qui... On peut être chrétien et ne pas être conservateur. Ça, c'est... Je crois que c'est un point important à préciser dans votre réflexion, Benjamin Boivin.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, une partie de l'enseignement de l'Église catholique serait perçue par une bonne partie de la population américaine comme étant particulièrement progressiste.
Ah bon?
D'ailleurs, le pape François, le pape actuel, est particulièrement critiqué dans certains milieux chrétiens américains, même chez les catholiques, en fait.
Oui, tout à fait. Donc, ces chrétiens conservateurs qu'on trouve surtout chez les républicains, j'avais cité trois noms, David French, Sohrab Ahmari et Rod Dreher. Ils sont déjà assez connus. Je pense que Rod Dreher avait parlé de la tentation dominicaine ou le repli dominicain ou un truc comme ça.
Il était question de l'option bénédictine.
Rod Dreher, pardonnez-moi.
Roderer est un intellectuel public américain assez connu, là, l'une des principales figures du mouvement conservateur chrétien. De façon intéressante, il est orthodoxe. Il est né dans une famille protestante, par la suite il s'est converti au catholicisme et puis il a terminé chez les orthodoxes. Mais Roderer a écrit un livre très, très connu il y a quelques années, là, justement, L'Option bénédictine, dans lequel, pour lui, en fait, la seule solution pour les chrétiens aux États-Unis maintenant, dans un contexte de grande transformation sociale qu'on a décrit, c'est ce qu'il appelle un certain repli, finalement. C'est se retourner vers des communautés intentionnelles, la formation de groupes familiaux, extra-familiaux, relativement tissés serrés, dans lesquels, finalement, les chrétiens qui sont conservateurs pourraient continuer à vivre selon un mode de vie, puis selon des valeurs qui sont les leurs, dans une société où les combats, la guerre culturelle, les combats sociaux qui ont lieu depuis les années 80, 90, 2000, sont essentiellement perdus. C'est son diagnostic, la situation, et c'est la solution qu'il propose.
Et ça, on appelle ça le communautarisme, ça c'est une des trois voies?
Oui, c'est ça. L'une des trois voies proposées, c'est le communautarisme. Le communautarisme, c'est un terme qui a un caractère plus général. On pourrait parler de toutes sortes de communautarismes différents. Mais il s'agirait, dans ce cas-là en particulier, d'un communautarisme chrétien et conservateur. Puis, comme vous l'avez dit, essentiellement blanc, quoi qu'une partie. Il n'y a pas de raison en particulier pour lesquelles une partie de l'immigration ne pourrait pas se tourner vers cette solution-là également.
Oui, oui. Parenthèse, Benjamin Boivin, vous parlez de communautarisme aux États-Unis, donc j'ai l'impression qu'au Canada, avec le multiculturalisme, Rod Dreher ferait mouche, non? Il doit avoir des adeptes ici, non?
Ben, je pense qu'il y a une certaine partie des jeunes générations catholiques qui sont inspirées par ce que dit Rod Dreher, parce que, en effet, l'infrastructure générale du Canada, là, qui est basée sur le multiculturalisme, le bilinguisme, puis la très grande diversité culturelle, et d'une certaine manière assez réceptive à une organisation de ce genre-là, à ce genre de solution-là. Parce que ça a pour effet de retirer, d'une certaine manière, les chrétiens conservateurs de la politique active. Parce que lorsqu'on choisit de se retirer dans des communautés intentionnelles, on ne participe pas à la vie publique de la même façon.
Est-ce qu'on peut faire... Il y a quand même les Mormons, est-ce que ce serait un modèle? Les Hasidim de New York seraient aussi des modèles, ou d'Outremont ici. Est-ce que c'est ce genre de repli communautaire que vous avez en tête, Benjamin Boivin?
Ben, évidemment, Dreher a des références qui sont différentes. Son imaginaire est plutôt peuplé par l'expérience du christianisme dans des époques ou dans des milieux où les chrétiens ont fait l'objet de persécutions. Ah. Lorsqu'il parle d'options bénédictines, il cherche à décrire l'expérience des chrétiens qui, dans le contexte de la chute de l'Empire romain, se sont retirés dans des monastères, d'où l'idée d'options bénédictines. Mais de fait, la comparaison que vous proposez est adéquate et peut décrire d'une façon, d'un point de vue sociologique, ce qui est proposé par Dreher.
Donc ça, c'est le communautarisme avec Rod Dreher, D-R-E-H-E-R. Le deuxième serait le pluralisme. Alors là, on est vraiment à l'opposé.
Oui, tout à fait. D'une certaine manière, le pluralisme, c'est probablement la meilleure description de la situation actuelle aux États-Unis, dans un sens. Oui. Parce que les promoteurs du pluralisme, dont David French est l'un des plus connus, mais pour eux, la société américaine est intrinsèquement divisée, complexe, puis extrêmement diversifiée. Et puis, il est assez difficile d'imaginer la poursuite d'un seul et unique bien commun. Puis, dans un contexte comme celui-là, les divers groupes et individus qui composent la société, bien, ils partagent assez peu de choses, puis... Finalement, la seule chose qu'ils peuvent s'entendre pour partager puis pour chercher à protéger, bien, c'est la citoyenneté puis un certain nombre d'institutions libérales, la protection des libertés individuelles.
Puis, la constitution, l'une des solutions...
Exactement. D'accord. Et puis ce que les gens comme ça soutiennent, c'est que finalement, la meilleure solution pour les chrétiens conservateurs, c'est de miser sur le caractère libéral des institutions politiques américaines, viser une décentralisation du pouvoir. Chercher à faire la promotion d'une très, très grande liberté religieuse, d'une définition très ouverte de la liberté religieuse, pour faire en sorte que ceux qui, dans la société américaine, souhaitent continuer de vivre à la manière d'un christianisme assez conservateur, puissent le faire sans nécessairement s'exclure du processus politique. Mais ça demande une patience et une tolérance de part et d'autre.
On avait parlé de Rod Dreher dans le cas du communautarisme. Dans le cas du pluralisme, qui est la figure de proue de ce mouvement-là aux États-Unis chez les républicains conservateurs?
L'un des intellectuels conservateurs pluralistes les plus connus, ce serait David French, là, qui est un penseur du conservatisme américain très, très important, qui est également un défenseur du libéralisme dans un sens classique. Pour lui, enfin, le libéralisme classique peut être un système de gouvernement qui peut être utilisé à des fins conservatrices. Et de cette façon-là, on peut dire que David French représente l'orthodoxie conservatrice américaine dans son expression depuis l'époque de Reagan. Et puis, il est défenseur d'un ordre établi dans un contexte où cette solution pluraliste est davantage critiquée maintenant qu'elle ne l'était dans le passé au sein des conservateurs, chez les chrétiens et les républicains.
Benjamin Bovin, on a parlé de David French et de Rod Dreher. Ces penseurs, donc chrétiens conservateurs aux États-Unis, est-ce qu'il faut avoir 3 doctorats pour comprendre ce qu'ils racontent? Ou vous nous en parlez de façon très claire, mais je veux dire, si quelqu'un de nos auditeurs veut lire un livre ou veut se plonger dans cette pensée, c'est compliqué comme tout? Ou est-ce qu'on
c'est à la portée
de beaucoup de monde?
C'est des gens qui sont des intellectuels publics dont l'objectif est de faire la promotion de certaines idées dans l'espace public. Ce ne sont pas nécessairement des universitaires dans leur tour d'ivoire comme certains peuvent l'être. Donc non, je dirais que la pensée de Dreher puis celle de French, qui est un peu plus sophistiquée malgré tout, est tout de même assez accessible.
Donc on a parlé de communautarisme, de pluralisme, et le troisième c'est l'intégralisme. J'ai l'impression d'entendre du Jacques Maritain, mais à l'états-unienne, ou à Emmanuel Mounier.
Oui, ben l'intégralisme, en fait, c'est un concept qui était plutôt disparu de l'espace public, mais qui est devenu de plus en plus courante dans les dernières années, ouais. Dans le contexte, justement, des débats dans les milieux conservateurs américains. Les défenseurs de l'intégralisme, ce sont des gens qui sont généralement assez controversés. On a parlé de Sohrab Ahmari, qui est un récent converti au catholicisme d'origine iranienne, qui est un conservateur important aux États-Unis. Et puis, il est connu pour justement avoir écrit un texte relativement important récemment qui s'appelle « Against David Frenchism ».
Contre la pensée de David French.
Exactement. Donc, lui, il s'attaque de façon frontale au pluralisme, qui pour lui est en fait l'une des causes des malheurs de la société américaine.
Pourquoi?
Pour les intégralistes, l'espace politique, c'est un environnement de lutte, de combat. Puis cet environnement de lutte et de combat doit être traité comme tel. Et puis ces gens-là, ils souhaitent en fait ils refusent de se retirer dans un espace communautaire privé. Mm-hmm. Ils refusent également d'accepter le caractère excessivement pluriel pour eux de la société américaine. Ils cherchent à faire la défense à l'intérieur même des institutions de valeurs traditionnelles. Ils souhaitent le rétablissement, en fait, d'une société intégrée en vue du plus grand bien qui, pour eux, est évidemment Dieu.
Bon, cette approche-là... Pardonnez-moi, mais Benjamin Bovin, j'ai l'impression d'entendre, encore une fois, la parabole du levain dans la pâte. Vous parlez de cette implication politique menée par quelqu'un comme Sohrab Ahmari, Ahmari, converti, donc il était iranien, certainement, j'imagine, chiite ou zoroastrien, donc devenu chrétien. On est dans la cité, on se bat dans la cité, c'est le sens du martyr au sens étymologique, du témoignage chrétien dans la pâte, dans la cité. Je veux dire, c'est pas la meilleure des 3 solutions, le communautarisme, l'intégralisme ou le pluralisme?
Le problème, en fait, qui est assez évident avec l'intégralisme, ouais. L'un des problèmes dont on pourrait parler, c'est le manque de réalisme. Il est assez évident que... Malgré tout, il y a assez peu de catholiques très conservateurs aux États-Unis qui sont déterminés à mettre tout en œuvre pour établir, puisque cette société-là n'a jamais existé aux États-Unis, une société catholique intégrée à l'image des grandes monarchies traditionnelles du début de l'époque moderne. Ce qui sont vraiment les références de penseurs comme Ahmari, mais aussi d'autres comme Adrian Vermeule, par exemple. Et puis ces gens-là, ils ont une approche qui, à mon avis, est assez peu réaliste. Mais certains voient là-dedans une forme de courage et puis un désir de vérité et de perfection qui est méritoire et qui, en fait, dans cette manifestation-là, ils voient un ardent désir de justice. D'autres voient dans le combat de Sohrab Ahmari et puis de ses camarades l'expression radicalisée d'un combat d'arrière-garde, finalement.
Mm-hmm. Mais je reviens à mon idée du martyr chrétien. Je ne sais pas si on a jamais pensé à ça, le martyr chrétien, comme action politique dans la cité. Est-ce que ça ne pourrait pas... Puisqu'on veut vraiment témoigner, on veut vraiment faire avancer nos idées, quelle que soit notre allégeance dans ce conservatisme chrétien états-unien, je veux dire, le martyr est un modèle, vous ne pensez pas? Sans terminer sur la croix ou être mangé par les fauves, être mangé par les médias sociaux suffit amplement. Mais je veux dire, vous ne pensez pas que ça pourrait être on pourrait s'inspirer de cette idée-là?
Ben, évidemment, c'est une idée qui apparaît assez intéressante. Et puis, de fait, je pense que Sohrab Ahmari et ses congénères réalisent bien que leurs objectifs ne sont pas nécessairement réalistes à court terme. Leur objectif, c'est de mettre en avant ce qu'ils croient être la meilleure société possible, l'idée c'est d'une meilleure société. Et puis, peut-être que la critique qu'on pourrait formuler à leur égard, c'est que en cherchant à transformer la société en vue de certaines fins particulières, puis à rompre avec l'ordre libéral, ils risquent d'être... Ils risquent de tout perdre, en fait, parce que c'est, pour des penseurs comme David French, c'est l'ordre libéral qui protège le mode de vie et puis les valeurs des conservateurs.
Voilà. Mais le troisième, la sœur Ahmari dont vous parlez, est vraiment veut donner, veut mettre la hache là-dedans et veut foncer tête bêche dans le tas.
Ben, les chevals de bataille de cette réflexion-là, de cette proposition-là, c'est de rompre, on a déjà parlé de ça un peu dans le passé ensemble, il y a une doctrine juridique qui est très importante pour les conservateurs américains, et puis c'est l'originalisme ou le textualisme. Et puis les conservateurs du genre de Sorab Amari, et puis d'autres comme Adrian Vermeule en particulier, sont de nature à penser que, en fait, l'originalisme ou le textualisme sert des fins essentiellement libérales et contribue à l'atomisation, la division, puis la particularisation de la société, et qu'une manière de rompre avec cet état de fait-là, qui est décevant pour eux, c'est de changer de doctrine judiciaire, puis de faire la promotion d'une vision de la Constitution axée sur le bien commun. Mm-hmm. Puis le problème apparent, là, la difficulté potentielle de cette réflexion-là, c'est que à quel point ces gens-là sont suffisamment nombreux, puis disposent de suffisamment de ressources pour faire en sorte que ce soit leur vision du bien commun qui prenne le dessus triomphe. Plutôt que celle de leurs adversaires.
Benjamin Bovin, deux petites remarques. Adrian, comment vous aviez dit?
Vermeule, V-E-R-M-E-U-L-E.
Ah d'accord. Et l'originalisme, on en a déjà parlé, mais il y a certains auditeurs qui n'étaient pas là quand on en a parlé. Pouvez-vous nous redonner une petite définition à... si c'est possible.
L'originalisme, en fait, c'est une doctrine juridique qui concerne la Constitution américaine qui vise à faire la promotion d'une lecture axée sur le sens public et évident du texte au moment où il a été rédigé.
Oui.
Donc, on cherche à éviter des interprétations conceptuelles ou basées sur la réalité d'aujourd'hui ou je ne sais quelle autre interprétation qui vise à introduire dans le texte des facteurs qui n'y sont pas présents.
Ah, donc la culture est secondaire, c'est un peu comme le Coran, c'est arrivé à tel moment, puis on n'a pas à contextualiser, on n'a pas à commenter, on ne fait qu'obéir à ce que le Coran ou la Constitution raconte.
Ben, certains pourraient accuser la pensée originaliste d'être justement un peu intégriste, là. Ouais. Mais en fait, l'objectif de ceux qui en font la promotion, c'est d'éviter que depuis les cours de justice, depuis la Cour suprême, des décisions de nature politique soient prises. À la défaveur de l'Assemblée des élus du peuple, finalement.
Voilà. Benjamin Boivin, vous disiez que démographiquement, ces chrétiens conservateurs perdent du terrain, mais j'ai l'impression que les évangéliques, ils ne sont pas abstèmes du côté de la bagatelle. Je veux dire, ils font beaucoup d'enfants, non?
Non, mais je pense que ce qui arrive avec les conservateurs américains aujourd'hui, là, puis vous parlez en particulier de ceux qui sont chez les Blancs, surtout là, dans le Sud, qu'ils vont devenir une minorité dans les quelques prochaines années. Là. C'est plutôt que d'une société qui était dirigée essentiellement par une élite WASP, là, anglo-saxonne et protestante, on se retrouve avec une société où les dirigeants sont issus de milieux plus diversifiés, puis l'emprise de la culture chrétienne protestante est beaucoup moins grande qu'elle ne l'a été dans le passé.
Est-ce que l'on peut citer Saint-Paul et dire qu'il n'y aura plus de blancs, plus de noirs, plus d'hommes, de femmes, de démocrates, de républicains, et dire que tout le monde est enfant de Dieu? Est-ce que ces chrétiens conservateurs aux États-Unis pourraient un jour envisager que personne ne possède Dieu, personne ne possède la Bible?
Ben, je pense que vous mettez le doigt sur l'une des critiques les plus importantes qu'on peut faire à l'égard de ces gens-là. C'est que dans bien des cas... ils font la promotion, au moins publiquement, d'une idéologie qui se voudrait aveugle à l'identité raciale. Mais dans les faits, leur pensée est souvent instrumentalisée pour faire la promotion d'un discours plus victimaire qui vient d'une partie de la société dont l'influence va déclinante. Et puis, vous avez raison de souligner que si on veut faire la promotion d'une conception authentiquement chrétienne du bien commun, il faut être capable de sortir de ces chapelles ethniques, linguistiques, culturelles, de toutes sortes, qui sont très importantes dans une société américaine profondément divisée sur les questions raciales encore à ce jour.
Effectivement, vous nous parliez, Benjamin Boivin, donc de trois tendances chez les républicains, conservateurs, chrétiens. Le communautarisme, le pluralisme et l'intégralisme, trois figures là-dedans, David French, Sorab Ahmari, A-H-M-A-R-I, et Rod Dreher, D-R-E-H-E-R. Vous êtes candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, on vous entend tous les deux jeudis à cette émission, et vous avez signé, vous nous résumez ce texte que vous avez fait pour le Verbe, le-verbe.com. Merci, Benjamin Boivin.
Ça a été un plaisir, à la prochaine.
à dans 2 semaines. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Saint-Paul Mickey et ses compagnons japonais. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci, qui vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.